Je pense que c'est des choses. Il faut prendre le temps déjà, je pense. Et surtout, c'est des choses qui arrivent à un certain moment de l'entretien aussi, en fait. C'est-à-dire que quand on fait des entretiens sur l'intime, c'est pas dans les 10 premières minutes que ça se joue. En fait, souvent, c'est quand même les dernières 20 minutes de l'entretien potentiellement qui sont les plus... plus intimes ou plus personnelles. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui se construit en fait dans la situation d'entretien, c'est-à-dire que en fait on commence sur, et moi je commençais en fait dans mes entretiens, c'était des entretiens biographiques et j'avais une consigne assez large au début où je voulais que les gens parlent un peu de leurs expériences plus généralement en fait. Et du coup je dis, est-ce que vous pouvez me raconter, est-ce que tu peux me raconter les expériences que tu as eues en commençant par le début? Et en fait, le début, ça pouvait être, Julie en sixième, et en fait, c'était première histoire. Et en fait, quand on parle de Julie en sixième, c'est, ouais, on peut être hyper attaché à Julie, mais souvent, on le raconte un peu avec un peu, ouais, j'étais jeune. Et en fait, on commence avec une relation où il n'y a pas forcément eu de traumatisme ou de grandes déceptions, c'était pas forcément... Et du coup, on commence à parler de l'intime sur une histoire qui est un peu les amours un peu de jeunesse, quoi. Et ensuite, on continue dans le parcours, on arrive de plus en plus vers l'entrée dans la sexualité, mais aussi les relations actuelles. Et en fait, ça permet quelque part de... Voilà, d'abord, d'en parler un peu comme un parcours, et ensuite, je pose des questions un peu plus spécifiques. Et c'est vraiment au fur et à mesure de la conversation qu'on peut se permettre de poser des questions plus intimes. Et finalement, un entretien, c'est assez proche d'une conversation informelle avec quelqu'un... c'est plus centré, mais avec quelqu'un, on peut commencer... que ce soit quand c'est une amie, quand on rencontre quelqu'un, on ne commence pas tout de suite avec les questions les plus intimes, mais lorsqu'on passe un bon moment en fait, avec quelqu'un, au bout d'un moment, la personne se sent à l'aise pour évoquer certaines choses. Donc ça, c'est un peu une réponse générale. Et après, il y a aussi des moments où j'ai vraiment dû donner de moi, parce qu'il y a cette relation un peu déséquilibrée. On demande aux gens, mais racontez-moi votre vie privée. Et en fait, quand les gens sentent que quand ça marche pas, parce qu'il y a des entretiens où en fait, ça marche pas, de aussi parler de moi, en fait, de dire, ben moi, je vous fais aussi confiance, donc je raconte une déception ou je raconte, en fait, une expérience. Et parfois, ça peut aussi désamorcer, donc c'est un peu genre, OK, je te donne des confidences, tu me donnes des confidences, comme ça, on a un peu un pacte et on est d'accord tous les deux que ça ne sort pas de la pièce, quoi. Donc ça, c'est un peu parfois des techniques aussi. Hein. Ouais.
Si je peux me permettre un ajout, c'est que ça devient quand même aujourd'hui facile, beaucoup plus facile que ça ne l'était il y a quelques années en arrière. Moi, j'ai été frappée par ça, quoi. C'est quand j'ai, comme vous l'avez rappelé, ça fait peu de temps que je travaille sur ces questions, quoi. Ça fait 5 ans. Et je ne pensais pas que ça serait, j'ai envie de dire, aussi simple d'obtenir une parole sur des choses extrêmement intimes. Mais là, je pense qu'il y a un effet de période, quoi. Oui. Je ne suis pas sûre que j'aurais obtenu les mêmes choses 20 ans avant. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une situation où, sur ces sujets, la parole est, me semble-t-il, plus facile. Ouais.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Donc là, dans la présentation, c'est un peu gommé parce qu'il fallait un peu faire des choix. Mais c'est quelque chose qui est présent, qui était présent dans les analyses et qui est aussi dans le livre et que j'ai abordé notamment à travers cette question de la sélection sociale, en fait, des discriminations sociales dans la rencontre. Et du coup, notamment sur la question de l'homogamie. Donc, l'homogamie, c'est le concept sociologique pour dire souvent la tendance des couples à réunir deux personnes qui se ressemblent socialement, donc du point de vue de diplôme ou des professions, etc. Mais l'homogamie, on peut très bien faire l'homogamie des plans cul. En fait, il n'y a pas de raison à s'intéresser uniquement au couple. Et effectivement, une des questions qui m'intéressait, des choses qui m'intéressent, c'est de montrer que la sexualité est aussi homogame. Parce qu'il y a parfois un peu cette idée que c'est uniquement en matière de conjugalité qu'il y a des enjeux sociaux, etc. Mais en fait, la sexualité aussi est éminemment socialement imprégnée, structurée. Et que les goûts sexuels et les attirances sexuelles sont socialement situés. Et que c'est très, très net. Et du coup, j'ai travaillé la question notamment de voir Qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui se contactent et qu'est-ce qui se fait qu'il y en a, il y en a d'autres, on va pas aller vers eux. Et tous les jugements sociaux là-dedans, et notamment ben, des choses sur le profil, en fait, la manière de juger la photographie sur Tinder, tous les jugements de goût, mais vraiment au sens bourdieusien le plus... Voilà, simple, en fait. Comment les jugements de goût, en fait, sur les pratiques photographiques, sur les pratiques linguistiques sont mis en œuvre et comment c'est intimement lié au goût sexuel et amoureux. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de pester sur la mauvaise orthographe de quelqu'un et en fait, c'est un jugement de goût et de classe et souvent, c'est un mépris de classe qui est assez fort, en fait, sur les appels envers la personne qui s'exprime d'une certaine manière. Et en fait, c'est un dégoût sexuel aussi. Et c'est vraiment... c'est-à-dire quelqu'un, on va dévaloriser ou trouver vulgaire ou en fait peu attirant des personnes qui s'expriment d'une certaine manière. Et ça vaut pour les filles et les femmes et les hommes. Donc c'est voilà, donc ça là évidemment ça, c'est très.
Observer des gens, par exemple, sur des applications sur leur sélection.
Oui, alors du coup de deux manières, parce que ce qui est problématique et ça rejoint peut-être un peu l'autre question, c'est comment on fait parler les gens. Ce qui est sûr, c'est que les gens ne parlent pas de façon assez simple sur leur racisme et leur mépris de classe. Parce que les gens savent à peu près ce qui est politiquement correct ou pas. Et du coup, il y a différentes manières de l'aborder. Je l'ai fait en partie en regardant les interactions sur les applis avec, par exemple, les données de Mythique, où on voit tout simplement que n'importe qui ne contactait pas n'importe qui. Il y a des effets vraiment de ciblage assez forts, que les gens l'admettent ou pas. Et puis il y a des manières, notamment sur les questions de un peu de classisme, de mépris de classe. Vraiment l'orthographe, ça m'a beaucoup intéressée parce qu'en fait les gens sont pas forcément, et ça peut vous surprendre, mais les gens sont pas forcément conscients que la manière d'écrire c'est une question de classe. Donc les gens vont pas dire, il y a certaines choses, ils savent que voilà ça c'est social, donc ils vont pas le dire. Mais quand ils parlent de la manière dont les gens écrivent, ils disent que les gens ont pas d'éducation en fait, ou ils sont vulgaires, ou c'est des racailles. En fait, il y a tous les mots qui leur sortent de la bouche. Ils sont très décomplexés sur leur mépris de classe parce que l'écrit est très intimement, mais beaucoup plus discrètement associé à la classe sociale. Donc, c'est par ce moyen-là que je l'ai eu, quoi. Et clairement, pas, en fait, avec des discours... voilà. Donc, ça, c'est... Parfois, il y a certaines choses. Les gens ne sont pas forcément sur leur garde par rapport à ce qu'on peut dire, etc. Et du coup, c'est par ces biais-là qu'on peut un peu les capter, quoi.
Et dans le rapport au corps, le rapport au physique, au corps, justement.
Oui.
Sur les photos, est-ce que c'est
aussi
des choses
que... Oui, c'est sûr que c'est l'écrit, mais aussi, par exemple, évidemment, les jugements sur les photographies sont aussi extrêmement discriminants, et notamment des types de corps, en fait, ou des types de présentations de soi qui sont socialement situés et qu'il y a des jugements assez spontanés là-dessus aussi. Et là, en fait, par exemple, sur la deuxième vague d'entretien que j'avais fait, en fait, j'avais travaillé avec en imprimant, en fait, c'était surtout des jeunes utilisateurs et du coup, en fait, des profils Tinder avec certains types de profils. Et du coup, en montrant aux gens, genre spontanément, tu swipes à gauche ou à droite, c'est-à-dire que tu voudrais parler avec cette personne là-bas. Et là, du coup, la personne est un peu confrontée à des images en disant « bah non, quand même pas ». Et on sent du coup, et là on peut un peu creuser en fait, mais c'est quoi? Et du coup, évidemment, souvent les personnes s'expriment sur des vêtements, ça peut être la pilosité, ça peut être plein de choses. Et à travers ça, on a des indicateurs un peu de goût sociaux. Ok, en fait, il y a deux tendances un peu générales sur les pratiques photographiques. En fait, la première, c'est qu'il y a des normes très très fortes en fait, parce que j'ai fait aussi une quantification un peu systématique des profils Tinder. Et en fait, il y a vraiment des manières de faire. Et par exemple, de prendre une photo, notamment en fait, de regarder l'appareil, en fait, d'avoir une certaine inclination de tête, ou en fait, c'est, je veux dire, 9 photos sur 10, c'est un certain type de photo, et les photos de corps, on voit toute la personne, par exemple, c'est très, très rare. Donc, il y a des manières, mais c'est aussi socialement situé, en fait. Et une chose qui m'avait intéressée, c'est... Ce qui était très fort, c'est que dans les classes supérieures, notamment dotées dans le capital culturel, il y avait des énormes efforts pour créer un effet de spontanéité. C'est-à-dire, je suis à la plage, etc. Et en fait, je ne suis pas du tout là pour faire des rencontres. C'est un peu genre... Alors que, en fait, dans les classes, dans les milieux plus... défavorisés, moins dotés culturellement. Il y avait, on va dire, une esthétique plus fonctionnelle. Genre, je regarde la caméra et je souris. Et en fait, je l'ai pris dans ma salle de bain parce que voilà, c'est juste pour faire une photo. Et ce n'était pas des formes de mise en scène un peu. Mais, et ça, ça rejoint aussi des différents usages de la photo qu'on retrouve ailleurs, comment on prend ses photos de vacances et tout ça, mais qu'on retrouve évidemment sur. Sur Tinder, en fait. Donc, on peut refaire la sociologie des pratiques culturelles, notamment photographiques, à travers Tinder, et ça marche très, très bien. Effectivement, on a une tendance sur l'homogamie. Et ce qui est assez net, et un collègue que tu as mentionné, Mélane Bochevalat, qui est spécialiste de la stratification sociale, il a très bien montré que l'homogamie en France a baissé au fil du siècle. Et ça, c'est sûr. Après, la tendance persiste, ça veut dire qu'on continue à rencontrer des gens qui nous ressemblent à des proportions beaucoup plus grandes que si on se serait choisi au hasard, quoi. Et ce qui est sûr, c'est que même moi, en fait, dans mes entretiens et ce que j'observe, évidemment, j'ai plein de couples, plein de relations hétérogames. Donc, c'est pas une tendance parfaite. En fait, aujourd'hui, c'est à peu près 30% des couples qui sont homogames. Et donc, en fait, c'est même pas la majorité, en fait. Donc, mais après, il y a autre chose aussi où j'amorce un peu la discussion dans le livre, parce que je pense qu'il faut faire très attention aussi à comment on mesure l'homogamie. Parce que traditionnellement, on mesure l'homogamie par notamment le diplôme. Sauf que, en fait, la signification de diplôme a énormément évolué sur la même période. Donc, l'indicateur qu'on utilise pour capter l'homogamie a elle-même énormément changé. Et en fait, ce qui est sûr, c'est que moi, je pense que sur Tinder, les gens parlent avec des personnes potentiellement de métiers différents, de diplômes un peu différents. Mais la manière dont, par exemple, les pratiques culturelles, avoir le même sens de l'humour, avoir un peu regardé les mêmes séries et avoir un peu le même univers culturel, la manière dont ça joue, ça voudrait potentiellement dire qu'il y a toujours une sélection sociale sur la proximité, l'affinité, parce que la proximité est définie comme le fait d'être proche, donc c'est se sentir proche, et ça, c'est favorisé par le fait d'être culturellement proche, et que du coup, peut-être, il va falloir commencer à mesurer l'homogamie aussi différemment. Peut-être avec l'inflation des diplômes et tout ce qu'on veut, mais en tout cas, la transformation de l'éducation, peut-être le diplôme est devenu un moins bon indicateur de la position sociale. Et peut-être il faut plutôt regarder, on regarde quoi sur Netflix, est-ce qu'on regarde Netflix, et que ça peut être un très bon indicateur d'homogamie, potentiellement. À partir du moment où on considère que les indicateurs, c'est juste des proxys de position sociale. Donc, qu'est-ce qu'on utilise comme outil pour mesurer la classe sociale? Et peut-être le diplôme, aujourd'hui, a un peu perdu sa capacité à décrire les fractions sociales. Peut-être que les fractions sont ailleurs et peut-être il faut les mesurer différemment. Mais ça, c'est un large débat. Moi, j'ai juste l'impression que les gens accordent une importance très, très forte au sentiment de reconnaissance dans l'autre, vraiment dans le sens à la fois « je me reconnais dans toi et tu sais me reconnaître », et que la reconnaissance est fondamentale dans le sentiment amoureux. Et c'est très, très favorisé par le fait d'être proche sur tout un tas de choses. C'est peut-être plus les diplômes, mais c'est peut-être autre chose.
Ouais, comme tu dis, c'est plus des éléments culturels qui donnent à voir un mode de vie. Mais du coup, toi, quand tu dis, bon, du coup, quand tu regardes, quand tu affectes justement un indicateur pour dire, en gros, ils sont quand même 30%, ils ne sont plus que 30% homogames, l'indicateur, c'est le diplôme ou c'est la CSP?
Alors, ça dépend, mais disons que c'est le diplôme est quand même, en fait, disons qu'il y a plus d'homogamie diplôme que de métier, mais aussi parce qu'en fait, hommes, en fait, font des métiers différents, et du coup, l'homogamie des professions est moins.
Toi, tu l'as regardé aussi par le diplôme?
Ouais. D'accord. Et des parents aussi.
Ouais. Oui, d'origine sociale, oui.
Alors, du côté des femmes, en fait, je trouve que c'est quelque chose que je trouve dans différents milieux sociaux. C'est-à-dire un peu cette idée que... Il y a quand même un peu un enjeu de respectabilité qui se joue dans la manière dont on répond au non, en fait, aux sollicitations des hommes. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la respectabilité, disons que la respectabilité des femmes est liée à leur sexualité. Mais ça a aussi des conséquences, du coup, sur la manière dont les hommes peuvent aborder différentes femmes. Et ça, c'est aussi très net. C'est-à-dire que, disons, pour le dire très schématiquement, les femmes de classe sup ont plus de chances de se faire respecter ou ne pas être abordées d'emblée sexuellement que des femmes du milieu populaire. Et il y a une forme de... Il y a une variable aussi, du coup, de racisation. C'est-à-dire que les femmes racisées ont à gérer beaucoup plus des hommes, en fait, qui font des avances explicites tout de suite, parce que, en fait, il y a justement cette association très forte entre respectabilité et sexualité. Donc, il y a un peu cette idée qu'il y a les femmes respectables, il y a les autres. Et les autres, on peut les aborder n'importe comment. Donc, il y a des formes de discrimination et de racisme et qui prennent des formes assez particulières dans le domaine amoureux et sexuel. Et donc, oui, clairement, et c'est des choses aussi, je ne sais pas si vous connaissez, mais... Beverly Skeggs, en fait, qui est anthropologue anglaise, qui a beaucoup travaillé justement cette question de la respectabilité, notamment chez les femmes de milieu populaire. Et elle montre justement l'effort qu'elles doivent mettre pour être perçues comme des femmes qu'on doit respecter, et notamment sur le plan sexuel, en fait. Donc, c'est sûr que les femmes qui manifestent un statut social plus élevé vont être d'emblée perçues comme respectables et donc ne vont pas être abordées de la même manière. Ça c'est assez net. Sur la question des bis et homosexualité, ce qui me semble assez frappant. Et peut-être plus dans les générations les plus récentes, parce que, et ça me permet de rebondir sur ce que tu disais sur les effets de génération, parce que une des choses que j'ai trouvé très intéressant, c'est que mes tout premiers entretiens que j'ai fait en 2007, c'était avec des jeunes, en fait, en 2007. Et ensuite, j'ai refait une campagne d'entretien, notamment avec des jeunes, en 2018. Et en fait, pour le coup, il y a des différences, en fait. Il y a des manières différentes de parler de sexualité et tout ça. Et une des choses que je trouvais assez frappant, c'est dans quelle mesure c'est arrivé dans les entretiens, cette idée qu'en fait, sur Tinder, on peut expérimenter, on peut... C'est pas forcément pour faire des rencontres en vrai, mais à minimum, on va tester de s'identifier comme hétérosexuel, de mettre comme de fille, de dire je cherche aussi des femmes ou de hommes, je cherche aussi des hommes, et on peut interagir à minima en ligne. Et ça donne pas forcément lieu à des rencontres, mais un peu en fait une forme de jouer le jeu de séduction avec des personnes de même sexe, avec cette idée en fait que ça le permet et qu'il y a une forme de curiosité. Et j'ai l'impression très clairement que ça, c'est quelque chose qui est bien plus pratiqué aujourd'hui que c'était avant, et que ça fait un peu partie de cette forme un peu d'expérimentation, et que cette expérimentation bi-homo est vraiment permise en fait aussi, ou favorisée par les sites et les applis. Et pour revenir sur une question juste, je veux dire, je suis contre la lecture un peu techniciste, mais il y a aussi des choses vraiment d'interface. Sur les sites, en fait, il fallait vraiment s'inscrire, je suis une femme, je cherche un homme, je suis un homme, je cherche une femme, ou je suis une femme, je cherche une femme. Il n'y avait aucune possibilité d'être bi, en fait, sur les interfaces web. Et alors, il y a des applis maintenant où on peut plus facilement switcher je veux un peu voir tout le monde, ou je veux voir des personnes de même, de deux sexes. Alors que sur les interfaces web, c'était impossible. Donc, quelque part, la possibilité bi, en fait, est bien plus prise en compte dans les interfaces des applis que des interfaces sites, quoi. Je pense, effectivement, ça passe beaucoup par le symbole. Et encore une fois, c'est cette évolution aussi des interfaces. Quand c'était des interfaces des sites web, et Mythique marche toujours un peu comme ça, en fait, c'est des critères, ces textes, veut dire, on coche des cases en disant, voilà, je suis chrétienne, de telle couleur de peau, je mange végétarien, etc. Alors qu'évidemment, sur les applications, tout passe par l'image. Du coup, il y a tout un effort de faire passer qui on est à travers l'image. Et c'est sûr que du coup, ça passe par des symboles. Donc, après, il y a un investissement de la photo qui est plus ou moins grand, parce que là, pour le coup, c'est quand même vraiment plus dans les classes supérieures dotées en capital culturel, où on sent que la photo est surchargée, en fait. fait. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à caser un instrument de musique, les vacances, tout. En fait, ils racontent tout leur univers culturel en 3 photos. Et tout en jouant avec un peu un effet de spontanéité, genre c'était pas du tout la volonté. Alors que en fait, il y a d'autres types de photos. Vraiment, c'est 3 photos de cuisine qui se succèdent en fait. Et du coup, il n'y a pas forcément de la même investissement symbolique de la photo. Après, évidemment, sur les habits, il y a plein de choses, et notamment les symboles religieux qu'on fait en sorte de passer en fait lorsque. Voilà, lorsque c'est une part importante de sa identité. Ouais. Et sur la question du sacré, donc évidemment, c'est une grande question, mais je pense que ça peut-être revient un peu sur la question de l'amour, en fait, ou le couple. En fait, la norme conjugale est forte, mais vraiment l'amour, en fait, moi, je pense, est très, très central dans nos sociétés. Et je trouve que c'est frappant, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de part du sacré, c'est-à-dire, il y a cette idée de... En fait, si on critique tellement les applications et les sites en disant que ça a tué l'amour, et si effectivement, Eva Illouz vient de sortir son livre qui est La fin de l'amour, cette idée que c'est quelque chose qui est en train de nous échapper. Pour moi, ce n'est pas un signe qu'effectivement, il y a une perte de l'amour. Pour moi, ça montre à quel point on est attaché à l'amour, parce que ça veut dire que c'est une forme de discours, de défense de ce que l'amour devrait être. Et on est déçu avec l'amour, c'est ça que ça veut dire. En fait, on est déçu avec l'amour, ça ne devrait pas être ça, mais pour moi, c'est juste une grande discours de défense de cette valeur, et que quelque part c'est avec cette idée aussi que l'amour c'est censé être ce qu'on n'est pas censé pouvoir expliquer. Donc quand une application vient avec des algorithmes, on dit mais c'est quand même pas ça l'amour, parce que l'amour est censé échapper aux logiques sociales et aux algorithmes. Et pour moi du coup oui, c'est du sacré, c'est ce qui est de l'au-delà, ce qui est inexplicable, ce qui nous échappe et à quoi on aspire. Et du coup pour moi vraiment oui, je pense que c'est plus sacré que jamais, et de dire que c'est la fin de l'amour, ça montre pour moi juste au contraire à quel point c'est une valeur primordiale, parce que sinon on ne passerait pas notre temps à s'inquiéter que c'est en train de disparaître quelque part. Il y a un usage et en fait ça se diffuse, alors ça a été plus lent pour des effets du coup vraiment de génération, c'est-à-dire il y a quand même eu potentiellement une méfiance plus longtemps envers ces outils, mais aussi parce que c'est une certaine génération, toute association avec le Minitel, en fait, c'était rédhibitoire, en fait. Donc, il y a aussi quand même des images négatives associées aux services de rencontre pour des personnes qui ont aussi connu, en fait, d'autres... Donc, ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, il y a des personnes... il y a des usagers de 50, 60, 70 ans... Et en fait, c'est aussi intéressant parce que, encore une fois, sur cette idée de normes conjugales persistantes, ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette idée qu'après une séparation, ou même après le veuvage, il faut vraiment à un moment renouer avec la conjugalité. Que même à des âges assez avancés, il y a cette idée qu'on est quand même mieux à deux. Et du coup... C'est comme si aujourd'hui, il n'y avait pas d'âge pour se mettre en couple. Et du coup, chez les personnes plus âgées, il peut aussi avoir une assez forte incitation, notamment de l'entourage, à s'inscrire sur un site ou une appli, avec cette idée qu'il ne faut pas, finir ses jours tout seul. Quoi. Donc, pour le coup, c'est utilisé. Après, les usages sont un peu différents. Les rapports de genre ne sont pas forcément les mêmes. Donc, sur les questions d'âge, notamment, Emmanuel disait que effectivement, les femmes en fait cherchent à parler avec des hommes plus âgés, donc ça fait que les jeunes hommes sont plutôt disqualifiés. En fait, chez les personnes âgées, en fait, aux plus âgés, on voit l'inverse, c'est-à-dire que une forme d'exclusion des femmes seniors par des hommes qui cherchent à parler avec des femmes plus jeunes, quoi. Donc ça c'est un élément de réponse que disons que les inégalités de genre ne se manifestent pas de la même manière. Et plus généralement, après, de façon peut-être plus anecdotique, on voit un usage qui est quand même plus lent, plus ciblé sur une personne à la fois, et du coup, on va dire, moins de multi-contacts et un peu plus de lenteur. Ça, on le voit très concrètement lorsqu'on étudie les interactions sur Mythic, par exemple, que ça ne se passe pas tout à fait de la même manière. Quoi.
Et est-ce que ça ne pourrait pas montrer finalement une évolution de la notion de relation et de couple, puisque on pourrait voir que les jeunes peuvent entretenir plusieurs relations en ligne, ouais, en même temps, ouais, alors que plus on avance dans l'âge, ouais, moins on est capable de tenir ces relations. Peut-être que un adulte de 40 ans, 50 ans peut parler à deux personnes maximum, mais pas entretenir non plus
non.
Et commencer n'importe quelle discussion.
Non, et je pense que ça, c'est vraiment un des grands changements, et pour le coup, un des grands changements pour moi de ce que vraiment les sites, les applis ont fait, et notamment à la culture de séduction en France, c'est qu'en fait, on a introduit cette idée qu'on peut être quelque part sur plusieurs personnes à la fois, en fait. Et en fait, dans le rituel de séduction française, ça n'existait pas avant, en fait. Ça a toujours existé aux États-Unis parce qu'il y avait le système de date où, en fait, on pouvait faire des dates avec des gens différents, et à un moment donné, on avait cette conversation, en gros, maintenant, on arrête de voir les autres. En fait, dans les années 90 en France, d'être en train de faire des rendez-vous avec plusieurs hommes à la fois, c'était inconcevable parce qu'il y avait cette idée que dès lors qu'on entre dans une phase de séduction, c'est forcément exclusif. On peut dater plusieurs personnes, mais on le fait à la fois, c'est pas en même temps. Et c'est sûr que, en fait, le online dating a vraiment introduit le dating en France avec cette idée qu'on peut faire des rendez-vous avec plusieurs personnes, on peut poursuivre des choses avec plusieurs personnes à la fois, et c'est uniquement quand arrive la question du couple qu'il faut un peu être exclusif. Et ça a vraiment changé, et on le voit de façon très nette avec les jeunes, mais effectivement chez les personnes plus âgées, on est quand même dans ce schéma qui est un peu plus exclusif et plus de malaise avec cette idée d'aller faire des rendez-vous, par exemple des verres avec plein de gens à la fois, parce que c'est quand même une formation du couple, c'est quand même censé être ciblé sur une personne. Donc ça, c'est sûr que c'est une question d'âge, mais c'est plus généralement l'introduction d'une autre manière d'apprendre à se connaître, dont les premiers moments ne sont plus exclusifs, alors que même pour les jeunes, il y a 20 ans, c'était exclusif, en fait. Donc il y a vraiment un changement des manières de faire et des premiers processus de rencontre. Sur les algorithmes, ça dépend desquels. Il y a toute appli et tout site fonctionne par algorithme parce que il y a des paramètres qui entrent en compte où, en gros, il faut les concepteurs ou les informaticiens décident qui on va voir en premier. Et ensuite, ces algorithmes sont plus ou moins sophistiqués et il y a des services comme par exemple Mythique, leur algorithme est extrêmement rudimentaire où en gros sont visibles des gens qui sont connectés actuellement, qui sont actifs sur le site, qui sont dans une zone géographique proche, dans un âge à peu près proche. Mais ils ne font pas intervenir beaucoup d'autres variables. Et en fait, la plupart des services, ils fonctionnent avec des algorithmes relativement rudimentaires pour deux raisons. La première, parce qu'ils sont, il n'y a pas besoin de faire sophistiqué. Et en fait, assez rapidement, évidemment, dans une grande ville, en fait, il peut y avoir beaucoup de gens, mais assez rapidement, on a un peu épuisé les gens proches. Donc, en fait, il n'y a pas non plus besoin de faire très sophistiqué parce qu'à un moment donné, l'importance principale pour un appli, c'est de montrer qu'il y a du monde. Et du coup, il faut aller creuser, en fait. Donc, cette hyper matching, on introduit uniquement des personnes qui sont censées aller ensemble. Il y a certains services qui l'ont fait, comme voilà, ils introduisent une personne par jour, ou en fait un peu il y a des services comme ça, donc ça existe. Mais la plupart, ils fonctionnent quand même avec des algorithmes assez simples finalement. Après, c'est aussi très compliqué d'avoir information en fait. C'est très concrètement comment ces algorithmes fonctionnent parce que c'est un peu le secret. Et du coup, c'est aussi difficile à mesurer la part de l'algorithme dans l'appareillement. Moi, j'avais proposé à Mythique, en fait, je me dis, mais c'est génial, on fait une expérimentation. En fait, vous me donnez deux fenêtres d'observation. J'observe comment fonctionne le site, qui contacte qui pendant 10 minutes lorsque votre algorithme marche. Et ensuite, vous me lâchez l'algorithme pendant 10 minutes, juste 10 minutes. Et je capte les interactions pendant ces 10 minutes-là, où il y a juste tout le monde, je veux dire, Julie, 18 ans, introduit à Maurice, 70. Et en fait, on mélange tout, il n'y a plus d'algorithme. Et je regarde les comportements de contact, ensuite je compare. Et là, je peux évaluer la part de l'algorithme dans l'appareillement. Ils n'ont pas voulu jouer ce jeu. C'est dommage, ça aurait été génial. En fait, c'est vraiment ce que j'aimerais faire, en fait, c'est-à-dire ça permettre de voir à quel point ça participe. Mon hypothèse, et c'est ça que j'ai essayé de vendre à Mythique, Julie ne va pas parler avec Maurice. Donc, en fait, la conclusion, ça va être l'appareillement de Julie dépend plus des goûts de Julie que de l'algorithme de Mythique. Mais ça ne les a pas convaincus. Ouais. Ouais. Et merci à vous. Merci beaucoup.